nous diriger doucement dans les Actes des Apôtres. Et nous allons lire dans le chapitre 8, si j'arrive à le trouver, décidément. Un passage que vous connaissez bien, je suppose, hein, que les enfants connaissent bien aussi, donc c'est un passage pour tout le monde aujourd'hui. Et nous allons lire du verset 26 au verset 40, si vous le voulez bien. Acte 8, 26 à 40. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Il se leva et partit. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner, assis sur son char, et lisait le prophète Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Avance et approche-toi de ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit, « Comprends-tu ce que tu lis ?» Il répondit, « Comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tond. Il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité, qui la dépeindra? Car sa vie a été retranchée de la terre. L'eunuque dit à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète parle-t-il ainsi? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre ?» Alors, Philippe, ouvrant la bouche et commençant par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau, et l'eunuque dit, « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé ?» Philippe dit, « Si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. » L'eunuque répondit, « Je crois que Jésus est le Fils de Dieu. » Il fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand ils furent sortis de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe et l'eunuque ne le vit plus. Tandis que joyeux, il poursuivait sa route, Philippe se trouva dans Azote, d'où il alla jusqu'à Césarée, en évangélisant toutes les villes par lesquelles il passait. Prions, s'il vous plaît. Seigneur, nous sommes toujours dans la joie et dans l'admiration de ta parole, Seigneur. Seigneur, c'est un vrai trésor que tu nous as laissé, un trésor pour nous diriger, un trésor pour nous dire ce que tu attends de nous, Seigneur, et pour nous montrer quels sont tes plans. Aussi, Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te louer ce matin, justement pour cette parole. Merci pour ce passage qui dépeint Philippe et cet eunuque, Seigneur, et ce que tu as accompli dans la vie de ces deux personnes. Seigneur, nous voulons rechercher pour nous-mêmes, Seigneur, ce que nous pouvons retirer de ce passage, apprendre de toi et apprendre pour nous-mêmes à te servir et à t'adorer, comme il t'est dû, au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien. Vous entendez, là, je crois, parce que moi, je m'entends. Et j'ai donné comme titre à ce passage, à ce message, un titre tout simple. Vous allez voir, c'est un seul mot. Disponible. Je peux m'en aller. Vous avez toute la teneur du message là-dedans. Disponible. Alors ce titre, le titre de ce message est aussi, donc, une question que je vous pose en introduction, tout simplement. Êtes-vous disponible? Sommes-nous disponibles? Je m'inclus dedans, bien entendu. Alors vous allez me dire, c'est une question un peu vague. Disponible, oui. Pour qui? Pourquoi? Il faudrait peut-être un petit peu resserrer le champ d'action. Et c'est vrai que dans notre vie de tous les jours, nous sommes confrontés à une multitude de sollicitations. Personne ne peut dire autre chose. Les sollicitations, elles viennent de partout afin que nous nous rendions disponibles, bien entendu, pour le travail, pour les enfants, pour le conjoint, les voisins éventuellement, pour l'Église, bien entendu. Et évidemment, un seul trait est invariable et commun à toutes ces situations. Vous savez lequel ? Si nous sommes disponibles pour les autres, nous le sommes beaucoup moins pour nous. Évidemment, c'est une logique imparable. Et ça, on le vit quotidiennement. Alors le passage que nous étudions ce matin nous donne un exemple parfait de disponibilité. Évidemment, c'est là-dessus que nous allons nous pencher. À l'aide donc de l'exemple de Philippe, nous allons découvrir comment Dieu peut utiliser pour sa gloire et pour sa gloire seule un de ses enfants afin d'accomplir des choses extraordinaires, parce que nous allons voir dans ce passage des choses extraordinaires pour que celui-ci soit obéissant, que celui-ci soit obéissant et disponible pour l'œuvre de son maître. Alors il y a beaucoup de choses dans ce passage. Je vous invite en premier à découvrir le contexte du passage, bien entendu. Ensuite, nous irons voir un petit peu du côté de Philippe ce qui se passe, ses dispositions de cœur, d'où sort ce personnage. Et après, nous irons focaliser sur l'eunuque éthiopien également, puisque c'est un personnage très intéressant. Et après, en conclusion, vous verrez bien. Alors, le contexte du passage. Jésus leur dit, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, dans Actes 1:8. Ok, ça c'est le plus général possible. Plus tard, après l'ascension du Christ, les disciples de Jésus-Christ à la Pentecôte reçurent le Saint-Esprit promis. Là, de ce côté-là, je ne vous apprends rien. Ce jour-là, 3000 personnes se convertirent et intégrèrent l'Église de Jésus-Christ. C'est très important, parce que ça va, vous allez voir ensuite ce que ça va générer. Le plan d'évangélisation de Dieu pour la terre commence donc très fort. 3000 personnes d'un coup, on aimerait bien voir ça de nos jours. Hein ? 3000 personnes qui se convertissent vraiment, solidement, c'est plutôt rare de nos jours, il faut le dire. Certaines fois, on a des campagnes d'évangélisation, il y a beaucoup de gens qui paraissent intéressés, et c'est tant mieux. Mais quand on fait le point quelques 6 mois après ou 1 an après, on se rend compte que finalement, eh bien, hélas, il y a pas mal de déchets. Ces personnes-là, il y en a quelques-unes qui restent dans les églises, gloire à Dieu, mais beaucoup sont dispersées à nouveau. Et on a du mal à rester motivé certaines fois, parce qu'on voit que l'œuvre du Seigneur, ce n'est pas facile. Alors, évidemment, on ne sait pas ce qui va se passer dans le cœur de ces personnes qui ont reçu l'Évangile, qui n'ont peut-être pas persévéré, mais qui sait ce qui peut se passer dans 10, 20 ans. Il y a une semence qui a été semée, et c'est Dieu qui fait croître, pas nous. On n'a pas besoin de se poser ce genre de questions, c'est Dieu qui va faire ce qu'il doit faire. Pourtant, après ces événements exceptionnels, les premières dissensions dans l'Église commencent pour un motif qui, à mon avis, me paraissait tout à fait terre à terre. Vous vous souvenez, un problème de distribution des ressources mises en commun dans l'Église de Jérusalem. Alors, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que les veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour dans Actes 6:1. Waouh! Alors, il faut dire que de ce temps-là, la vie était certainement plus difficile que maintenant. Les veuves, évidemment, souvent étaient sans ressources, parce que le mari était mort, donc il ne travaillait plus, le pauvre. Et les veuves restaient souvent sans ressources, et l'Église pourvoyait, certaines fois, à leurs besoins. Et donc, forcément, ça pouvait créer certaines tensions. Mais bon, suite à ce problème, l'Église nomma 7 diacres, pour se charger de cet emploi, c'est-à-dire distribuer les biens dans l'Église. afin que les apôtres soient dégagés de ces choses et puissent se consacrer à la prière et au ministère de la parole. Amen. On est d'accord. De ce nombre, donc, de ces sept diacres, étaient Étienne et Philippe. Peu de temps après, la première persécution de l'Église arriva suite au martyre d'Étienne. Dans Actes 8:4, nous pouvons lire « Ce qui avait été dispersé allait de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. » Donc voici en quelques mots le contexte dans lequel se déroule l'événement d'Actes 8:26 que nous venons de lire et qui nous intéresse bien sûr ce matin. Alors je vous ai parlé de Philippe, et on va s'apesantir un petit peu sur ce personnage de Philippe. Et Philippe, comme beaucoup d'autres chrétiens, à ce moment-là, s'enfuit dans la ville de Samarie, où il prêche immédiatement le Christ. C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Mais donc, qui est Philippe et que savons-nous de lui? Alors, dans la parole de Dieu, il est identifié comme Philippe l'évangéliste, qui était l'un des sept dont nous venons de parler. Bon, ça, c'est un peu vague, hein. Alors, il vivait apparemment initialement à Jérusalem, il descendit à Samarie, puis on le retrouve installé quelque temps après à Césarée, et de par son nom, on est presque certain qu'il est helléniste, c'est-à-dire grec. Nous avons déjà parlé de son élection en tant que diacre dans l'église de Jérusalem, et juste avant le début de notre passage, Philippe prêche le Christ à Samarie, et le Seigneur appuie son témoignage par des miracles extraordinaires, des exorcismes et des guérisons. On voit ça dans Acte 8, verset 6. Un grand nombre de personnes se convertissent dans cette ville de leur nombre et Simon le magicien. Ça, ce n'était pas gagné, par contre. Hein. Et pourtant, le Seigneur fait des miracles. Nous en arrivons donc à notre verset 26, de début de passage, qui nous intéresse. Un ange du Seigneur, s'adressant à Philippe, lui dit « Lève-toi et va du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. » Mettons-nous donc un petit peu à la place de Philippe à ce moment-là. Comment a-t-il dû réagir à cet ordre? Bon, on a évidemment la parole de Dieu qui nous guide, mais extrapolons un petit peu. Admettons que je suis à Samarie, une grande ville où je suis en train de prêcher l'Évangile. Beaucoup de païens se tournent vers Dieu. Je veux donc évidemment, tout à fait logiquement, continuer dans cette foi afin que beaucoup d'autres puissent se tourner vers Dieu. Logique, pas logique? Logique. Pourquoi Dieu veut-il que j'aille du côté du Midi sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza et qui plus est, celui qui est désert? Alors là, par contre, il n'y a personne. Il n'y a personne à évangéliser, en tout cas, dans l'esprit de Philippe. Enfin, moi, je ne sais pas, mais il doit peut-être passer une caravane tous les mois. Peut-être, pas sûr. Bon, la logique veut donc que je reste à Samarie afin de prêcher aux foules. C'est là qu'il y a du monde, là, qui va écouter l'évangile. Et peut-être Philippe s'est-il posé toutes ces questions? C'est possible. Cela n'est pas mentionné dans le texte. En tout cas, moi, certainement, je me les serais posées. Et peut-être même encore d'autres questions et d'autres questions. Alors, que nous dit le texte? Ben, il se leva et il partit. Alors, si on fait un arrêt sur image à ce moment-là, concernant Philippe, on voit que Philippe est zélé pour le Seigneur. Dans Actes 6, 3, c'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soient pleins d'Esprit Saint et de sagesse. Philippe, il est zélé, il est plein d'Esprit Saint, il est plein de sagesse. Il est également occupé à l'œuvre du Seigneur. Hein, Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Il arrive, il pose les valises et va prêcher le Christ. Merveilleux. Et Philippe est à l'écoute du Saint-Esprit également. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe, et Philippe écoute, hein, bien sûr. Philippe fait confiance à Dieu également. Il se leva et il partit. Il est donc obéissant, même s'il ne comprend pas les desseins de Dieu pour le moment. Il ne discute pas l'ordre. Ça, c'est important. Et vous allez évidemment comprendre que les applications pour nous sont très importantes. Alors, nous voulons être utilisés par Dieu pour son œuvre. Oui, nous le voulons. Nous avons le désir de servir, de témoigner de notre foi également. Mais sommes-nous dans la bonne position et les bonnes dispositions pour que Dieu puisse réellement nous utiliser? Vous vous souvenez du titre? Disponible. C'est important. Donc soyons zélés et conséquents dans notre vie. En premier, comme Philippe, recherchons la sanctification et la plénitude du Saint-Esprit, sans laquelle personne ne voit le Seigneur. Ayons un bon témoignage. Travaillons à l'œuvre de Dieu. N'attendons pas un ordre ou un signe du Seigneur. Ça, la Bible regorge d'ordres à ce sujet-là. On n'a pas besoin d'entendre quoi que ce soit. On peut y aller, direct. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit également. Celui-ci peut nous parler de diverses façons. Alors, on ne va pas rentrer dans les diverses façons dont le Saint-Esprit peut nous parler. Ça, sinon, c'est un autre message. Mais vous les connaissez certainement, vous en connaissez plusieurs. Et si nous recevons un ordre de Dieu, obéissons, même si nous ne comprenons pas sur le moment ce que le Seigneur veut de nous. Le Seigneur sait, lui, ce qu'il fait. Donc, reprenons donc un petit peu le cours de notre texte. Et voici, donc, il se leva et partit, vous vous souvenez, il est déjà en route, Philippe. Et voici un Éthiopien, un eunuque ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer, s'en retourner assis sur son char et lisait le prophète Ésaïe. Donc, en lisant la suite de notre passage, on commence peut-être à comprendre un petit peu le sens de l'ordre reçu par Philippe. Ça nous met sur la voie, là, forcément. Voilà donc la seule caravane passant par ce chemin, qui plus est était désert, hein, bien entendu. Alors, on a vu un petit peu qui était ce Philippe, quelles étaient ses dispositions de corps. On va se pencher maintenant un petit peu sur les dispositions de cœur de cet eunuque. Qui est cet eunuque? Alors, nous savons donc qu'il est éthiopien. Alors, le terme, j'ai relevé ça un petit peu dans un dictionnaire, le terme éthiopien se traduit littéralement par « visage brûlé ». C'est rigolo. Ou « visage de feu », pire encore. C'est-à-dire qu'il est passé par le feu en premier, après il a été brûlé, forcément. Et nous comprenons donc pourquoi les Éthiopiens sont de couleur très noire, en fait, c'est vrai. Les Éthiopiens sont très, très, très noirs de peau. Plus que d'autres, certains qui sont ici. Moi, je connais des Éthiopiens, ils sont encore plus noirs. Et puis finalement, ça vient peut-être de là. Visage brûlé. À cette époque, l'Éthiopie se trouvait au bout du monde. J'ai relevé un passage de l'Odyssée, donc, qui en parle même. Et Homère dit, il était dans la lointaine Éthiopie, là où les hommes sont à l'extrême bord. Vous savez que dans l'ancien temps, la terre était un disque, et quand vous arriviez au bord, hop, on tombait dans le vide. Ben, l'Éthiopie était tout au bord, c'est-à-dire très loin. Hein, c'est une image, bien entendu. Mais pour dire que l'Éthiopie était un pays très lointain, et dans l'ancien temps, ceux qui venaient d'Éthiopie, forcément, ben, faisaient un long voyage. C'était un eunuque. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? À cette époque, dans certaines contrées, les fonctionnaires étaient des eunuques. C'est-à-dire qu'ils avaient été castrés pour aller droit au but. Ne pouvant pas avoir d'enfants, évidemment, et ne pas fonder de famille non plus, ils n'étaient pas tentés de faire passer leurs intérêts personnels et ceux de leur famille avant ceux de l'État, du roi ou de la reine qui servait. En l'occurrence, la reine, à ce moment-là, pour cette eunuque-là. On va peut-être souffler l'idée à notre conseil des ministres, on verra ce qu'ils en pensent. On ne sait pas. Mais bon, c'est peut-être un peu désuet maintenant, c'est ça que vous voulez dire. Alors, il est ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant dessous tous ses trésors. Waouh! Alors, c'est un personnage apparemment important. Donc, il est ministre des Finances déjà, de Candace, qui est la reine d'Éthiopie. Bon, Candace, j'ai regardé un petit peu, en fait, c'est plutôt un titre qu'un nom. Un peu comme Pharaon, quoi, si vous voulez. ou César à Rome, c'est un peu le même principe. Il est venu à Jérusalem pour adorer. Alors, on ne sait pas exactement, en lisant le texte, s'il est un prosélyte, c'est-à-dire un homme converti au judaïsme, ou un homme craignant Dieu, un peu, c'est-à-dire un non-juif sympathisant du judaïsme. Moi, je pencherais plutôt vers la seconde, mais bon. De toute façon, une chose est certaine, c'est que, étant allé adorer à Jérusalem, il est certain qu'il n'a pas pu pénétrer dans le temple, le pauvre. Non. Car l'entrée est interdite aux eunuques. Ça a l'avantage d'être clair. On voit ça dans Lévitique ou dans Deutéronome. Alors il retourne à ce moment-là dans son pays. Donc il est venu adorer, il reparle. Toujours par le même chemin, désert. Donc il retourne dans son pays sur son char. Waouh. Et dans l'Antiquité, on a parlé de l'Éthiopie, qui était un pays assez lointain, je pense. Un tel voyage était synonyme, certainement, d'épreuves suffisamment pénibles, fatigantes et très, très inconfortables. Donc, il était courageux de venir déjà à Jérusalem et de repartir. C'était un très long voyage. Et en tant que ministre des Finances, notre voyageur, quand même, devait bénéficier d'un certain confort, certainement très relatif. Hein. Mais à cette époque, c'est important. Il était haut placé et il utilisait certainement un chariot à quatre roues plutôt que deux. Donc c'était plus stable déjà. Et dans lequel il pouvait dormir, vu le voyage, heureusement. Et qui contenait évidemment ses bagages. Donc il pouvait quand même se reposer dans son char, alors que ses serviteurs, eux, étaient soit sur des mulets, des ânes, ou peut-être autre chose, hein, des chameaux ou autres. Et il s'en retournait dans son pays en lisant le prophète Ésaïe. Alors certainement, il revenait de Jérusalem, donc il avait acheté un rouleau du prophète Ésaïe. Et ça témoigne à mon avis de deux choses. Donc déjà, forcément, il cherche à connaître Dieu, puisqu'il a acheté une partie de la Torah. Et secondement, il a aussi les moyens de se le payer, parce que ces parchemins étaient extrêmement chers à ce moment-là. Ils étaient recopiés à la main par les... Je ne me rappelle plus de leur nom, les pauvres. Ce n'étaient pas des scribes. C'était des... Bon, ils avaient un autre nom, très précis, et même pas des copistes, non. Mais bon, je le retrouverai, le nom, un de ces jours. Et nous revenons maintenant à la rencontre entre Philippe, évidemment, et l'Éthiopien. Alors, il est sur son char, il est en train de lire sa copie du prophète Ésaïe. Alors, autant Philippe est mené par Dieu vers l'eunuque, on l'a vu, autant l'Éthiopien est préparé par Dieu pour recevoir la bonne nouvelle. Vous vous souvenez un petit peu de Corneille ? C'est un peu le même principe. Dans Acte 10, verset 4, nous voyons les regards fixés sur lui et saisis d'effroi. Il répondit, « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit, « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu. » Et il s'en est souvenu. Et là aussi, Dieu s'est souvenu de cette eunuque. Et donc, il a envoyé Philippe pour évangéliser cette eunuque. Et donc, évidemment, il n'y a pas de hasard dans cette affaire. Vous le savez bien. En application pour notre vie, dans notre vie chrétienne, nous pouvons être confrontés à des situations qui nous paraissent incompréhensibles. Pourtant, Dieu, lui, il sait ce qu'il fait. Il prépare tout selon ses plans, et c'est très précis, n'est-ce pas? Il nous demande donc seulement de lui faire confiance et de lui obéir, même si quelquefois cela nous paraît un peu fou. Il y a des situations qui ne sont pas évidentes quand on sert le Seigneur. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ce char. Facile à dire, je dirais. Je pense que Philippe avait besoin de cet ordre. Pour une bonne raison, est-ce que vous avez essayé de vous approcher d'un cortège présidentiel ou ministériel, vous? Sur les Champs-Élysées, par exemple. Il y en a un qui a essayé. Certainement, notre personnage haut placé, donc, devait avoir une escorte importante, prête à le défendre à la moindre menace. Alors, je ne sais pas si Philippe avait l'air d'un menaçant, mais en tout cas, apparemment, ça ça s'est bien passé. Les routes de ce temps-là n'étaient pas très sûres, hein. Je vous le dis d'avance. Hein. De notre côté, du côté de Gaza, en ce moment, ce n'est pas très sûr non plus. Hélas. À nouveau, Philippe obéit sans hésiter. Il accourt et entend l'Éthiopien lisant Ésaïe, parce qu'il devait le lire à voix haute. Et Philippe, poussé par le Saint-Esprit, pose une question, à mon avis, épineuse au surintendant. Comprends-tu ce que tu lis ? N'oublions pas que notre Éthiopien est un homme haut placé, très certainement instruit et même érudit peut-être. Le fait de lui poser une telle question aurait dû provoquer chez lui une réaction plus ou moins violente. Enfin, je ne sais pas, mais quel est cet individu qui ose douter de mon intelligence à moi ? Je suis en train de lire, c'est bien que je comprends ce que je lis. Oui, bien sûr, mais non. Au contraire, l'Éthiopien qui a été préparé par Dieu demande lui-même l'assistance de Philippe et l'invite à monter avec lui dans son char. Waouh, c'est bien. Au moins, il ne va pas se fatiguer comme ça. Donc, tout est préparé d'avance pour que cet Éthiopien puisse entendre la parole de Dieu. Quelques remarques intéressantes, à mon sens, sur le passage que l'Éthiopien est en train de lire. Donc, le passage, on l'a lu, évoque tout d'abord Jésus subissant la mort de la croix, ainsi que son rétablissement par Dieu, par la suite. Mais de notre côté, ce qui est intéressant, c'est que la suite du passage s'adresse tout particulièrement à l'eunuque. Je ne sais pas si vous connaissez ce passage, on peut lire dans Ésaïe 56, 4 à 7, qui est la suite, « Et que l'eunuque n'aille pas dire, voici je suis un arbre sec, car ainsi parle le Seigneur, aux eunuques qui gardent mes sabbats, qui choisissent de faire ce qui me plaît, et qui se tiennent dans mon alliance, à cela, je réserverai dans ma maison, dans mes murs, une stèle porteuse de nom. Ce sera mieux que des fils et des filles. » Pensez bien que quand l'eunuque a dû lire ça, il était plutôt heureux. Un Dieu qu'il ne connaît pas complètement, qui commence à parler de cette manière d'un eunuque qui normalement ne pouvait même pas rentrer dans le temple parce qu'il était diminué. Il y a tout un paradoxe pour l'eunuque. Dieu a choisi lui-même ce passage et a préparé le cœur de l'eunuque afin qu'il soit réceptif au message beaucoup plus important de l'Évangile pour lui. Et Philippe n'a plus qu'à lui annoncer l'Évangile en s'appuyant sur le passage qui est en train de lire l'Éthiopien. D'une situation plus qu'improbable, je dirais, Dieu a offert à Philippe une occasion inespérée d'annoncer le salut en Jésus-Christ à un ministre des Finances intéressé aux choses spirituelles et s'en retournant dans son pays lointain, évidemment, où il pourra lui-même propager ce message. Parce que le but, à mon sens, le plus important pour Dieu, évidemment, il y a l'Éthiopien qui se convertit, et gloire à Dieu, mais il va dans un pays étranger où le message de l'Évangile est inconnu. Et cet Éthiopien sera certainement utilisé par Dieu par la suite pour évangéliser en Éthiopie. Et ça, ce sont les préciences de Dieu, la sagesse de Dieu qui veut ça. Alors en conclusion, je vais faire un briefing, comme on dit. Dieu a préparé Philippe afin de l'envoyer dans un lieu improbable, parler à un personnage encore plus improbable. Mais d'accord. Par son Saint-Esprit, il a révélé à Philippe le lieu de la rencontre sans lui en dire plus. Philippe s'est empressé d'obéir à son Seigneur sans poser de questions. Dans un même temps, Dieu préparait déjà l'eunuque à cette rencontre, bien entendu. Philippe présente le salut en Jésus-Christ à l'Éthiopien en utilisant le livre du prophète Ésaïe. Et l'eunuque accepte ce message et se convertit. Le texte que nous avons lu se termine par l'explosion de joie de l'Éthiopien sauvé. Amen. J'ai volontairement tronqué la seconde partie de mon message sur le baptême de l'eunuque, parce que sinon ça aurait été trop long. Mais certaines fois, nous hésitons à nous lancer dans un témoignage car l'occasion semble défavorable ou peut-être mal engagée certaines fois. Ça arrive. Mais souvenons-nous de Philippe, justement, d'après ce que nous voulons de voir, qui était bien occupé à évangéliser Samarie, avec un certain succès d'ailleurs, on l'a vu. Souvenons-nous du chemin désert où il fut envoyé par Dieu en dépit de toute logique. Et le résultat de son témoignage, car Dieu est souverain, c'est ça dont il faut se souvenir ce matin. Il nous demande seulement d'être disponible et obéissant. D'où le titre de mon message, « Disponible ». Alors nous verrons de grandes choses s'accomplir. Pour terminer, on peut lire 2 Timothée 4,2 qui nous dit « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprends, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. » Le Seigneur sait ce qu'il fait. Et s'il nous envoie quelque part, c'est à dessein. Et c'est lui qui va parler au travers de nous à ce moment-là. Si nous forçons les choses, eh bien, on se rend compte souvent que ça ne fonctionne pas. Mais quand c'est Dieu qui nous envoie, c'est Dieu qui parle. Amen. Amen. Amen.